et bonsoir à tous.
And you know what?
Deuxième temps d'une semaine sur la démocratie dans les nouveaux chemins de la connaissance, une semaine pour la démocratie, c'est-à-dire aussi une semaine passée à la critiquer, à pointer ses défauts, ses échecs, ses imperfections et donc peut-être sa grandeur. De même que la démocratie est un régime qui se nourrit des critiques qu'on lui adresse, la loi du marché est un système qui, en démocratie du moins, porte au pinacle ceux qui la contestent. Comme en témoigne, par exemple, le succès de librairie des ouvrages de Michel Onfray, ou encore, du dernier pamphlet d'Alain Badiou, intitulé « De quoi Sarkozy est-il le nom ?», paru aux éditions Ligne en novembre 2007. Une émission en différé aujourd'hui, enregistrée la veille de sa diffusion, ce lundi 4 février, dans le studio 113 de la Maison de Radio France. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. Alors je vous dis bonjour et non pas bonsoir car nous sommes lundi matin, c'est le début de la semaine. Alors on va parler de celui dont vous parlez dans votre livre, Nicolas Sarkozy. Mais avant ça, avant ce que vous dites de lui, je voudrais qu'on s'attarde un instant sur ce que vous dites de la démocratie en général et du vote en particulier qui a pu déstabiliser certains de vos nouveaux lecteurs puisque ce livre, ce pamphlet est un succès de librairie. Vous avez gagné là de nombreux lecteurs et qui ont pu être surpris aussi par ce que vous écrivez de la démocratie. Vous en parlez comme d'un fétichisme parlementaire. Vous dites un fétichisme parlementaire qui tient lieu de démocratie, ce qui n'est pas sans rappeler un article fameux de Sartre en 73 dans les temps modernes, intitulé « Élection piège à con ». Est-ce que c'est dans cette lignée que vous vous inscrivez, Alain Badiou ?
Oh, j'accepte volontiers cette généalogie, la généalogie du pamphlet de Sartre et encore plus celle de mai 68, puisque en mai 68, il faut le rappeler, les militants, les acteurs du mouvement avaient bien raison de déclarer « Élection piège à con », puisque après l'immense mouvement auquel ils avaient participé et qui était dans la conviction d'un bouleversement radical, on a eu les élections les plus réactionnaires depuis des décennies. Ce contraste était tout de même saisissant.
Vous vous posez dans le livre d'ailleurs la question de l'essence répressive des élections, même si vous considérez qu'en somme les élections ne sont pas forcément répressives.
Oui, c'est très clair. Aujourd'hui, on fait même des guerres pour imposer des élections là où elles n'existent pas. Donc le fait que l'élection soit un moyen de ramener les gens dans le rang d'un certain ordre, c'est absolument évident. Il ne faut pas oublier, les élections, c'est un système d'État. C'est un système de pouvoir, avant toute chose.
Je vous cite. Je ne dis pas que l'essence des élections est répressive, je dis qu'elles sont incorporées à une forme d'État, le capitalo-parlementarisme approprié à la maintenance de l'ordre établi, et que par conséquent, elles ont toujours une fonction conservatrice qui devient, en cas de trouble, une fonction répressive. Et je cite maintenant Jean-Paul Sartre, « L'isoloir, écrivait-il en 73, planté dans une salle d'école ou de mairie, est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Il dit à chacun, « Personne ne te voit, tu ne dépends que de toi-même, tu vas décider dans l'isolement et par la suite, tu pourras cacher ta décision ou mentir. Il n'en faut pas plus pour transformer tous les électeurs qui entrent dans la salle en traîtres en puissance, les uns pour les autres. » Vous êtes pour les votes à main levée, Alain Badiou ?
En tout cas, je constate que la démocratie, lorsqu'elle a été active, populaire, effective, a toujours plus ou moins pris la forme de la démocratie d'assemblée, qui était sa forme primordiale. Et un théoricien de la démocratie, s'il en est, Jean-Jacques Rousseau, montre bien que l'idée d'une démocratie représentative, c'est-à-dire d'une démocratie déléguée, est à certains égards une idée contradictoire.
C'est-à-dire, en quoi est-elle contradictoire ? En quoi le principe qui avait été posé par Montesquieu, entre autres, par exemple dans l'Esprit des lois, est-il contradictoire ?
Eh bien, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et que le peuple, c'est le rassemblement. La dispersion, l'atomisation ne constitue pas un peuple, ça c'est évident. Donc Sartre a raison, l'addition de singularités renvoyées à elles-mêmes et prises dans leur séparation ne constitue pas un corps politique véritable.
Oui,
donc toute démocratie d'assemblée est dans son principe plus proche de la démocratie, pouvoir du peuple, que n'importe quelle figure de la représentation. Ça, je crois que c'est d'une logique tout de même imparable.
Alors, si c'est d'une logique imparable, restons logiques. Comme Raymond Aron le dirait à Jean-Paul Sartre, de deux choses l'une, mon petit camarade.
Dites-moi les deux.
Alors, de deux choses l'une, soit on est dans un régime des partis, une démocratie représentative, c'est-à-dire un espace où les opinions différentes des individus sont représentées au Parlement, dans la mesure où elles peuvent l'être par une personne qui en représente des dizaines de milliers, mais bon, donc un régime d'assemblée, par exemple, une démocratie parlementaire, soit on est dans une logique qui est celle de l'unanimité, l'unanimisme, par exemple, dont on peut trouver les linéaments dans la volonté générale, cher à Rousseau. Donc, si vous êtes... donc, on a bien compris que vous n'étiez pas du côté de la démocratie parlementaire, mais en même temps, ça ne vous empêche pas, par exemple, de brocarder l'UMP, que vous appelez UUP, Union pour l'unanimité présidentielle. Donc, comment pouvez-vous dire à la fois que vous êtes hostile à la démocratie parlementaire et vous opposer à un président dont vous soupçonnez l'ambition totalitaire, dans la mesure où il dit « je serai le président de tous les Français » et dans la mesure où il veut créer un parti unique ?
Mais parce que vous m'acculez un faux dilemme, c'est une ruse, donc j'apprécie la virtuosité, n'est-ce pas ? Le choix entre majorité parlementaire et unanimité est entièrement truqué. Je suis d'ailleurs absolument pas partisan de l'unanimité, je suis au contraire absolument convaincu que le devenir de la politique est toujours dans la contradiction, dans la scission, dans le conflit. Donc la question est de savoir dans quelle forme de conflit la volonté populaire peut s'exprimer. Et je dis, l'isoloir, la séparation, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce que les gens qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'ont ni l'argent, ni les moyens de communication, ni un pouvoir quelconque, n'ont que leur rassemblement, c'est-à-dire leur force collective politique, pour se manifester dans l'espace public. Et si on les en prive de surcroît, on n'a pas de démocratie. D'ailleurs, je ne considère pas du tout que le régime parlementaire actuel soit un régime démocratique. Je pense qu'on le décrirait plus exactement en disant que c'est une oligarchie.
Aujourd'hui,
oui.
Mais qu'est-ce qu'une démocratie sinon un régime qui ménage la possibilité d'écrire et d'être publié quand on l'écrit, d'écrire que ça n'est pas une démocratie, justement ?
Non, mais là, vous réduisez, comme le font toujours les défenseurs de la démocratie à la liberté d'opinion.
La liberté c'est d'opinion. Un des éléments de la démocratie, Alain Badiou, quand même.
C'est un des éléments de la démocratie.
Vous avez pu écrire ce livre.
Absolument, mais c'est loin d'être l'élément principal. Encore une fois, la démocratie, c'est la question de savoir qui exerce réellement les pouvoirs et qui prend les décisions collectives. C'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est la prise de décision est-elle proche ou possiblement proche d'une figure collective de la conscience politique. C'est ça, la démocratie. Les libertés formelles peuvent être tout à fait intéressantes, mais ça renvoie la chose du côté de l'État, naturellement.
Alors, il faut rappeler ici, pour l'auditeur, ce que vous entendez par liberté formelle. On peut faire référence à Raymond Aron, qui lui-même le tirait d'ailleurs de Marx.
Absolument.
La différence qu'il faisait entre liberté formelle et liberté réelle. Pour le dire rapidement, une liberté formelle, c'est l'ensemble des droits dont dispose un citoyen, notamment le droit de vote, par exemple. Les libertés réelles, on pourrait les qualifier davantage comme les moyens dont disposent les citoyens. Et en somme, la thèse de Marx était de dire que les libertés formelles n'étaient rien tant qu'il n'y avait pas les libertés réelles derrière. En somme, avoir le droit de vote, c'est pas grand-chose tant qu'on ne peut pas remplir son assiette, pour le dire de façon un peu triviale, Madame Badiou.
C'est trop renvoyer les choses à l'économie. Je pense que le point principal est que la figure collective ne peut pas être construite dans la séparation. Autrement dit, un peuple, une communauté politique, ça n'est pas une addition d'individus. Et le vote et la représentation consistent à dire on va avoir une collection d'individus séparés. Et ces individus séparés par un mécanisme chimique assez singulier tout de même, dans lequel le nombre a une fonction principale, vont se trouver représentés par des gens dont c'est le métier. Cette figure-là est une figure d'État qui fonctionne, je ne dis pas le contraire. C'est même peut-être la figure d'État qui aujourd'hui fonctionne le mieux.
C'était la question que j'allais vous poser, Alain Badiou. Quel régime, hormis le nôtre, donc, trouverait aujourd'hui grâce à vos yeux ? Dans quel espace serions-nous davantage en démocratie que dans une démocratie parlementaire telle que vous l'aborez ?
Je pense que pour l'instant, il n'y a que des expériences démocratiques localisées et circonstancielles. En effet, la démocratie existe par éclair, par éclat. Elle est hors d'état de se projeter dans un État. Et d'ailleurs, à la fin des fins, après
tout... Vous pensez par exemple à un kibboutz ?
Ça peut être un kibboutz, ça peut être une barricade de mai 68, ça peut être une assemblée générale de grévistes, ça peut être les grandes manifestations de 95, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être même le refus au référendum, puisqu'après tout, la totalité de l'oligarchie était pour le oui, et que quelque chose s'est passé qui a fait qu'il y a eu un non. Ça peut être tout cela, ce sont des expériences fragmentaires et locales. Et en vérité, ça nous enseigne une chose, c'est que la politique démocratique véritable ne peut pas être une forme d'État. Moi, je suis communiste, je suis pour le dépérissement de l'État, hein, je maintiens absolument cette idée. Et même s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.
Hein. Oui, je reste encore pour combattre Sylla, comme disait Victor Hugo, voilà, c'est ça. Alors, effectivement, vous dites, et c'est ce qui vous distingue de pas mal de gens qui, comme vous, étaient maoïstes dans les années 60-70. Vous dites qu'eux sont dans la contradiction. Pensez à André Glucksmann, vous pensez de façon générale à la gauche antitotalitaire, sous la forme des nouveaux philosophes, par exemple, que vous détestez. Et vous dites que vous êtes resté dans la fidélité. À quoi êtes-vous fidèle ?
Eh bien, je suis exactement fidèle à la conviction que la politique ne se réduit pas à la gestion des affaires dans le cadre capitaliste et parlementaire, que ça, c'est une affaire de professionnels, c'est une conception oligarchique de la chose, une oligarchie qui se fait confirmer, valider ou modifier périodiquement par l'appel à des collections d'individus séparés, que pour moi tout ça n'a rien à voir avec la politique en son sens véritable.
Mais la politique en son sens véritable, n'est-ce pas également tout simplement de participer à la vie de la cité autant que faire se peut ?
Participer à la vie de la cité, encore faut-il qu'on en reconnaisse la norme et le principe d'existence. Une vie, c'est aussi une loi. Donc la question est de savoir ce qu'on pense des lois qui dominent la société contemporaine. Au fond, ne tournons pas autour du pot, n'est-ce pas ? La question clé, c'est la question du capitalisme. Il n'existe pas un seul pays, vous le savez parfaitement, où l'existence d'une démocratie parlementaire n'est pas pour condition un certain seuil de développement et d'implantation du capitalisme lui-même. Je tiens donc, il faut commencer par là.
Oui.
Entre la forme d'État que nous connaissons et le capitalisme déployé, il y a une véritable complicité organique. D'autres, cela veut dire que...
Est-ce que cette complicité organique ne tient pas au fait, tout simplement, que, comme Aron l'avait théorisé, justement, qu'on ne peut pas être libre quelque part et aliéné ailleurs ? Qu'en somme, la liberté d'entreprendre est la dot d'une démocratie qui garantit la liberté
d'agir.
Elle n'en
est pas la dot, elle en est le fondement, plus ou moins caché ou plus ou moins explicite, n'est-ce pas ? Parce qu'il est évident que, on le voit tous les jours, que la forme d'État parlementaire s'appuie de manière essentielle à garantir cette liberté-là, n'est-ce pas ? Et donc, en plus, je ne suis pas du tout d'accord avec cet axiome. On peut tout à fait être limité dans un sens et libre dans un autre.
Est-ce que vous avez un exemple historique de ça ?
Un exemple historique de quoi ?
Y a-t-il un exemple historique d'un régime authentiquement démocratique qui ne suive pas et qui ne vive pas selon les règles et les lois et les normes du régime capitaliste ?
Mais il n'y en a aucun exemple pour l'instant, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et la conclusion qu'on en tire, c'est pas du tout qu'il faille se résigner au capitalisme, c'est que précisément, on ne peut pas entériner la forme parlementaire puisqu'il apparaît qu'elle a comme condition le capitalisme lui-même. Donc c'est un régime d'organisation de l'inégalité, des inégalités monstrueuses, littéralement, nous le savons parfaitement. Et le consentement à cette inégalité, c'est ce sur quoi je ne peux pas céder. Donc je ne peux pas concéder cette inégalité, et comme elle est structurelle, je ne peux pas lui concéder le régime politique qui va avec. La liberté d'opinion, c'est très bien, je lui suis grandement favorable, et je l'utilise quand elle m'est donnée, bien sûr, vous avez parfaitement raison de prendre cette objection, mais ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de la politique, tout de même.
La liberté d'opinion ?
Non, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a de plus important ?
Mais il y a de plus important les principes qui sont les vôtres dans l'investigation de la société tout entière. Si la liberté d'opinion doit se payer de ce que, premièrement, l'écrasante majorité des moyens d'information et de propagande appartiennent au roi du béton, de l'aviation ou des armes de guerre, et si, deuxièmement, elle doit se payer d'inégalités monstrueuses, cela prouve qu'elle doit être replacée dans un tout autre contexte.
Mais en même temps, la liberté d'opinion, c'est aussi le droit de dire, comme vous le faites maintenant et comme bien des journaux le font, effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de concentration de la presse, des médias et la possibilité d'une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir financier.
C'est d'ailleurs bien la preuve que la liberté d'opinion ne joue qu'un rôle infime dans cette affaire, parce que le fait de pouvoir le dire n'y change rien, n'est-ce pas ? Les processus réels qui aboutiraient à la transformation de ce point supposeraient de toute évidence un puissant et général mouvement anticapitaliste qui déracinerait la puissance de l'oligarchie financière.
Mais également la liberté d'opinion.
Pas nécessairement.
Que vous inspire la démarche politique, par exemple, d'un José Bové, pendant la présidentielle, qui développe, par exemple, avec Yves Salès, notamment, qui était tête pensante du projet de José Bové, qui développe l'idée selon laquelle on peut sortir de la loi du marché sans pour autant rien céder aux procédures démocratiques. Et qu'en somme, ça reste à construire, ça reste à inventer, mais c'est tout à fait pensable et tout à fait accessible. Que vous inspire cette façon de tenir bon, si j'ose dire, sur la question des formes démocratiques qui sont celles de la démocratie parlementaire et en même temps la volonté de supprimer l'économie de marché, littéralement.
En un certain sens, je pourrais souhaiter qu'elle soit valide, mais j'en suis fort étonné parce que moi, je ne comprends pas bien loi du marché, économie de marché. À mon avis, ce sont des faux semblants. La vérité de la chose, c'est capitalisme, c'est-à-dire appropriation privée des grands moyens d'échange, de production et d'information tout de même. Donc, c'est ça le noyau de la question. Le noyau de la question, c'est de savoir est-ce qu'on s'attaque à cette disposition ou est-ce qu'on la considère comme, en quelque manière, une loi de la nature. La naturalisation du capitalisme, c'est ça l'idéologie contemporaine la plus établie.
Mais c'est aussi l'idée toute bête que personne n'a eu besoin d'inventer le capitalisme, alors que le marxisme, si.
Ah ben ça, c'est la preuve que effectivement, c'est de la volonté humaine qu'il faut tirer la puissance politique et non pas de la résignation aux lois naturelles.
Est-ce qu'en somme, dans un cas, il n'y a pas d'un côté la volonté humaine qui s'opposerait aux lois naturelles et de l'autre... Voilà, en somme, d'un côté la volonté, de l'autre la nature.
Écoutez, moi je suis en effet extrêmement méfiant à l'égard de la nature. C'est ce qui fait que je ne suis pas un écologiste de première ligne, n'est-ce pas ? La nature, pour moi, c'est un phénomène qui est absolument indifférent à l'homme ou à la destinée humaine en tant que telle. Tout le montre, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas... Tout ce qui fait notre existence actuelle a été bâti à partir de procédures scientifiques, techniques, etc., qui n'avaient rien de naturel. Donc je ne vois pas pourquoi, en matière d'économie et de politique, tout d'un coup, on invoquerait la nature. Ça me paraît très étrange.
Mais alors, ça veut dire que l'institution d'un régime politique qui ne serait pas conforme à la nature humaine, c'est-à-dire qui ne serait pas conforme à la démocratie parlementaire, en somme, pour le dire rapidement, ou à la sanctification de la volonté de chacun, ou à de l'égoïsme de chacun, ce système politique se ferait contre la volonté de la majorité des gens.
Écoutez, ça, c'est une autre question. La question de savoir s'il se fait contre la majorité des gens, moi, je constate de toute façon que tout ce qui s'est avéré créateur dans l'histoire de l'humanité s'est au départ fait contre la conviction de la majorité des gens, vous comprenez ? Alors, je ne vois pas pourquoi ça serait différent en politique.
Non, mais alors, corps défendant, une chose est d'être contre la volonté de quelqu'un, l'autre est de le faire à son corps défendant. Historiquement, tous les régimes politiques qui ont voulu supprimer la démocratie parlementaire ou abolir littéralement l'inégalité ont débouché sur des massacres de masse, Alain Badiou.
Écoutez, ça c'est un argument qui consiste à dire, étant donné que les tentatives pour résoudre un problème fondamental ont échoué ou ont été désastreuses, abandonner le problème lui-même.
Non.
Mais si. C'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. Du moment que ça a donné ce que nous savons, alors nous devons abandonner l'hypothèse elle-même. Mais moi, je dis non. Je pense que l'hypothèse communiste reste l'hypothèse rationnelle de disposition de la politique et de la vie en société. Et ce n'est pas parce que des entreprises de réalisation de cette hypothèse ont été calamiteuses que je vais abandonner le problème lui-même.
Donc, si je suis votre logique, on a un certain nombre de régimes communistes, enfin prétendument tels aujourd'hui, qui sont des régimes calamiteux. On peut dire Cuba, la Chine, la Corée du Nord, pour citer trois Mohicans, si vous voulez. Qui sont aujourd'hui des régimes liberticides, calamiteux, sanguinaires, est-ce qu'on voudra ?
Nous sommes liberticides, massacreurs,
certainement, mais prenons juste cet exemple-là. Partir du moment où ces régimes s'effondreront sous les coups de la loi du marché, en somme, et où il y aura McDonald's à La Havane, et où il y aura, ou en Chine, et en Corée du Nord, la Corée du Nord s'ouvrira, etc., à l'instant où ces régimes seront tombés, l'hypothèse communiste retrouvera, à vos yeux, sa validité.
De toute façon, moi, je n'ai jamais rallié ces régimes calamiteux. Donc, ma conviction est que l'hypothèse communiste se développe par étapes successives. Je dis ça, d'ailleurs, succinctement dans le livre sur Sarkozy. Et exactement comme dans tous les plans de la création, qu'elle soit artistique, scientifique ou politique, il y a de longues séquences de tentatives vaines, d'errements. Mais personne ne doit abandonner le projet au nom de ces tentatives.
Mais est-ce que ça
n'est... Le fait de tirer comme seule morale de l'échec des régimes communistes, qu'il faut se rallier à cette belle forme naturelle qu'est le régime parlementaire et l'oligarchie capitaliste...
Pas la belle forme, la pire de toutes à l'exception des autres.
Moi je ne renonce pas à l'idée du bien, je ne suis pas comme Glucksmann, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que la seule chose qui nous reste, c'est de lutter contre le mal. Je continue à penser que le devoir du philosophe, c'est d'indiquer ce que pourrait être et une hypothèse politique qui soit une hypothèse égalitaire, réellement démocratique, et non pas la mise en coupe réglée de la planète et de sa population par une oligarchie de financiers.
On va continuer cette conversation, Alain Badiou. On va passer de la critique de la démocratie parlementaire à la critique acerbe de celui qui aujourd'hui est à sa tête, en tout cas dans le régime liberticide qui est le nôtre, selon vous. L'une des preuves du tempérament totalitaire, selon vous, de Nicolas Sarkozy, c'est le fait qu'il ait dit après l'élection qu'il voulait être le président de tous les Français. Deux questions. D'abord, connaissez-vous un président qui n'ait pas dit ça au soir de sa victoire ? Est-ce que tous les présidents sont des dictateurs ? Deuxièmement, en quoi le fait de dire qu'il gouverne aussi pour ceux qui n'ont pas voté pour lui est-il le fait d'un dictateur ? Un dictateur, c'est plutôt quelqu'un qui punit ceux qui sont contre lui, non ?
Je ne crois pas avoir employé ni le mot totalitaire ni le mot dictateur. C'est vous qui les introduisez là dans la discussion.
Il faudrait que je retrouve la page à l'instant où je vous dis ça.
J'ai dit que Sarkozy, que le désir de Sarkozy était d'être aimé de tout le monde. Ça, oui. Et après tout, il se peut fort bien que les présidents aient tous dit « Bien entendu, désormais, je vous représente tous », etc. Ça va avec la fonction. Mais attirer dans les gouvernements le maximum de représentants de l'opposition, ça, il est le premier à le faire, quand même. Il est le premier à le faire, et donc, ce n'est pas simplement des paroles. C'est l'idée que, somme toute, le gouvernement, de Nicolas Sarkozy peut mettre fin à la question de l'existence d'une opposition et peut attirer à lui, par les moyens très classiques de la séduction et de la corruption du pouvoir, des représentants éminents de l'opposition. C'est à ce propos que je disais, un peu en riant, voilà, il propose le parti de l'unanimité présidentielle.
Mais Alain Badiou, les transfuges dont vous parlez, qui se présentent comme des déçus de la gauche, sont aussi des gens qui s'indigneraient et qui vous diraient qu'ils s'indignent de voir qu'en 2008, par une sorte de surmoi marxiste, le socialisme français n'a pas encore officiellement admis que l'économie de marché était l'horizon indépassable de notre temps.
Ça prouve.
Ces gens-là sont sincèrement de gauche. Hein. Ils le sont différemment que vous, mais
ils sont sincèrement de gauche, à l'exception du point crucial, qui est que, à mes yeux, lorsque vous avez déjà avaler l'essentiel de la couleuvre, c'est-à-dire quand vous avez reconnu que le capitalisme est inébranlable et naturel, vous dire de gauche, c'est quand même en partie des fariboles, n'est-ce pas ?
Donc ils ne sont pas de gauche du tout. À ce compte-là, il y a 5% de gens qui sont véritablement de gauche.
C'est probable. Du point de vue des gens organisés, c'est probable à l'heure actuelle. Mais on a vu ça dans l'histoire bien des fois, n'est-ce pas ? Combien y avait-il de républicains convaincus encore en 1791, n'est-ce pas ? C'est le mouvement qui crée les possibilités de la nouveauté, hein, en politique comme ailleurs. Par conséquent, moi, ce que je crois, c'est que le ralliement massif des socialistes à l'économie de marché entraîne, premièrement, leur annulation comme force d'opposition véritable, et en effet, prépare les voies à ce qui existe ailleurs, d'ailleurs, des régimes d'union nationale, en Allemagne, une collaboration ouverte entre socialistes et conservateurs, etc. C'est-à-dire, une chose qui me frappe de plus en plus, c'est que l'unanimisme dont vous parlez, il est du côté de la démocratie parlementaire, d'ailleurs elle ne parle que consensus, et en fait je me suis toujours dit cela, n'est-ce pas ? Des gens qui acceptent, au fond, que ceux dont ils disent qu'ils ont un projet absolument opposé au leur reviennent au pouvoir, leur succèdent, etc., comme si de rien n'était, il est évident que c'est des gens dont la conviction profonde et que la différence avec les autres est très faible.
Mais en même temps, Alain Badiou, il y a quelque chose d'extrêmement consensuel dans les positions que vous défendez également. Vous parlez du péténisme français comme du transcendantal de la France, finalement.
Un des transcendantaux
de la France. Et vous vous indignez d'un péténisme d'aujourd'hui, ce que vous appelez le péténisme analogique. Je vous cite. Les Français n'ont qu'à accepter les lois du monde, le modèle Yankee, la servilité envers les puissants, la domination des riches, le dur travail des pauvres, la surveillance de tous, la suspicion systématique envers les étrangers qui vivent ici, le mépris des peuples qui ne vivent pas comme nous. Si je vous traduis, hein, si je dis que l'économie de marché est supérieure au marxisme dans la mesure où personne n'a eu besoin de l'inventer, si je dis que les États-Unis sont une démocratie qui vaut mieux vivre à New York qu'à Téhéran, si je dis qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres et que vouloir abolir ceux-ci débouche sur des massacres de masse, historiquement, et si je dis que la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, je suis un péténiste.
À peu près. Vous êtes un péténiste moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui se résigne à l'ordre établi, qui flatte les puissants et qui, de surcroît, caresse la population dans le sens du poil, du point de vue de ses peurs les plus immédiates.
Enfin, Alain Badiou, si Jean-Paul Sartre aurait pu dire que si le péténisme n'existait pas, les maoïstes l'auraient inventé, là, parce que...
Non, mais pas du tout. C'est une structure historique de la conservation. J'ai bien défini ce que c'était. Ça ne renvoie pas à l'historicité de Pétain lui-même. Et c'est tout à fait normal que, de même que la gauche révolutionnaire a certains invariants, le conservatisme français a un certain nombre d'invariants que vous venez d'ailleurs de résumer parfaitement.
Mais je n'ai fait que vous lire, cher Alain Badiou. Mais alors,
vous m'avez lu et vous m'avez ensuite traduit.
Je vous ai traduit absolument. Vous étiez d'accord avec la traduction que j'en donnais.
Ah oui, la traduction qui fait que c'est bien de cela qu'il s'agit dans la mentalité d'un grand nombre de gens, c'est une traduction tout à fait convenable. Prenez un point, par exemple. Il vaut mieux être dans l'économie capitaliste que dans l'économie marxiste, et vous avez traduit « parce que personne n'a eu besoin d'inventer le capitalisme ».
En somme, qu'il est conforme à la nature humaine.
Eh bien voilà, donc je vous renverrai. En tant que précisément « il ne faut faire que ce qui est conforme à la nature humaine », voilà déjà un axiome avec lequel je suis en désaccord total. Je dirais que c'est bien à la gloire du marxisme qu'il ait été pour la première fois une proposition rationnelle de l'esprit humain.
Non conforme à la nature humaine.
Et pas purement et simplement la constatation des données naturelles. La nature, elle a bon dos, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas cessé, l'histoire humaine n'a pas cessé d'être une transformation radicale de la nature. D'où venait cette transformation radicale de la nature ? Il serait curieux que tout d'un coup, en politique, il faille la faire revenir comme un paradigme.
Vous aimez Descartes, Alain Badiou. Quel est le Descartes que vous préférez ? Celui qui dit qu'il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature ou celui qui dit avant, comme une morale provisoire, avant finalement d'accepter que ce soit sa morale pour toujours, qu'il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde.
Le premier, sans aucun doute.
Et naturellement.
Le premier.
Évidemment. cela dit, vous-même, Alain Badiou, vous parlez de conservatisme, mais vous vous donnez comme programme de ne rien attendre du vote, conformément à ce que vous dites d'ailleurs du vote et de l'éventuelle répression qu'il peut contenir. Vous vous donnez comme programme de ne rien attendre du vote. En d'autres termes, à moins d'une hypothèse révolutionnaire, vous vous donnez comme programme de ne rien changer.
Je me donne comme programme...
Est-ce que ça n'est pas du conservatisme là aussi?
Non, non, de fait. Je me donne comme programme de changer les choses localement sur une scène qui est hétérogène à la scène parlementaire, représentative et électorale, de laquelle je crois qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas lieu d'attendre quoi que ce soit. Hein, sinon, précisément, la perpétuation ou l'aggravation de la disposition oligarchique du pouvoir. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des tas de combats à mener, il y a des tas de formes d'organisation nouvelles à inventer. Toute politique nouvelle se cumule. Nous ne sommes pas dans une période d'élan révolutionnaire et transformateur, je le sais parfaitement. L'histoire a connu des alternances nombreuses. Entre 65 et 75, il y a eu une décennie activiste. Depuis les années 80, nous sommes dans un reflux. Ce reflux ne durera pas éternellement et il faut donc se préparer à la séquence suivante, c'est tout. Et non seulement je pense que cette préparation est importante, mais même elle est décisive. Et quant à dire qu'elle n'est pas transformatrice, elle l'est au contraire par essence.
Elle l'est par essence, sauf que les congés payés, la CMU, tout autant d'avancées sociales dont la suppression vous mettrait dans la rue, j'imagine, d'indignation, ce sont des lois qui ont été votées au Parlement.
Oui, mais faites-en l'histoire réelle, n'est-ce pas ? Dans le premier cas, ça venait sur l'horizon du Front populaire, mm-hmm. qui était bien d'autre chose qu'un simple vote, comme mm-hmm. vous le savez parfaitement, mm-hmm. qui a été la plus grande grève des années 30, une mobilisation tout à fait inattendue, même le gouvernement de Front populaire
ça
a été
saisi. Personne ne le conteste, Alain Badiou. Le fait est que ça s'est transformé en loi, c'est tout.
Oui, il l'a transformé. En loi, mais pas parce qu'ils avaient l'intention de le transformer en loi, encore une fois. C'est pas le vote qui a décidé de la loi.
Bah, si le gouvernement n'avait pas été celui de Léon Blum, il n'y aurait jamais
eu. Oui, mais s'il n'y avait pas eu la grève générale, il n'y aurait rien eu du tout. Hein. Voilà. Il y aurait eu, comme d'habitude, les déceptions entraînées éternellement par la gauche quand elle vient au pouvoir. Et quant au deuxième volet du dispositif, sécurité sociale, etc., il y avait derrière les forces qui, elles, étaient armées en plus de la résistance. Alors vous ne pouvez pas justement, ce sont deux bons exemples, ce sont des bons exemples dans lesquels on voit très bien que le parlementarisme livré à lui-même, c'est la conservation, et que quand, par hasard, il n'est pas la conservation, c'est qu'il y a été contraint par autre chose que lui-même.
Parlons un instant, pour terminer cette émission, de ce que vous dites de Nicolas Sarkozy. À un moment, vous posez que, c'est parmi les 8 points que vous posez pour bâtir quelque chose, une éthique, vous dites qu'il faut défendre l'amour à tout prix. Alain Badiou, je vous cite sur Nicolas Sarkozy, je suis exactement dans vos mots, il n'y a pas de traduction là, hein. C'est du brut de décoffrage. Donc Nicolas Sarkozy, une sorte de comptable bourré de tics, visiblement inculte, un flic agité, Napoléon le très petit, un peureux, un magouilleur, un personnage minuscule, un petit agité, qui fait son beurre de la peur, dont l'unique programme est travail, famille, patrie, l'homme au rat, RATS, au look de cadre moyen d'une banque de seconde zone et dont la survenue immonde nous fera un jour regretter Le Pen, le borgne. En matière d'amour, vous vous posez là quand même.
Par amour, j'entends l'amour, n'est-ce pas ? Et je suis là, je suis dans le pamphlet, dans la grande tradition du pamphlet. J'écris et je pense et j'éprouve. À peu près les mêmes choses que Victor Hugo devant Napoléon le Petit.
Il y a un passage de Clément Rosset dans les 5 petites pièces morales où il vous cite, qui est un passage tout à fait étonnant. Il vous cite à l'appui de l'idée que la morale démocratique n'a rien à redire à la morale des nazis et qu'en somme, toute imprécation morale contre un régime totalitaire est faussée du fait que le totalitarisme veut être lui aussi une morale. C'est un grand texte de l'immoraliste Clément Rosset qui dit qu'en somme, il n'y a aucun sens à jouer morale d'un côté contre immoralisme de l'autre et que c'est avec ce genre d'illusion, de diabolisation qu'on en viendra peut-être, ajoute Rosset de façon prémonitoire, à faire passer Le Pen. C'est ce qu'il raconte. Or, est-ce que vous ne faites pas rigoureusement la même chose en accablant d'injures le président Sarkozy, en vous prenant autant à ce qu'il est qu'à ce qu'il fait ?
Écoutez, ça c'est... J'accepterais de dire qu'il y a des limites au genre du pamphlet. Hein. Absolument. Le genre du pamphlet doit être toujours circonscrit et mesuré à des circonstances tout à fait particulières. Si là, le genre du pamphlet s'est imposé, c'est à raison d'un phénomène en effet original, qui est le style gouvernemental de Sarkozy lui-même. Et puis d'autre part, je dois vous dire ceci. Dans la vie quotidienne et militante, j'ai un très grand nombre d'amis qui sont des ouvriers sans papier d'origine africaine. Et eux, je les aime. Voilà. Et ce que leur fait Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, quand il a fait voter la loi Cézéda, quand il fait expulser par quota 25 000 personnes tous les ans, ce qui leur fait à leur vie réelle. Ça, par contre, je ne l'aime pas.
Alors, il y aurait là-dessus beaucoup à dire. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, Alain Badiou, notamment sur la comparaison que vous faites entre ces Africains, les ouvriers dont vous parlez, et les Juifs qu'on a mis dans des camps, qui est une comparaison sur laquelle il faudrait revenir, parce qu'elle a autant que le pamphlet peut-être ses limites. Merci d'être venu nous voir, merci d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École Normale, naturellement. Vous êtes l'auteur récent, entre autres, de Quoi Sarkozy est-il le nom, paru aux Nouvelles Éditions Ligne en novembre 2007. Par ailleurs, vous venez de diriger le tome consacré à Aristote dans la nouvelle série du Monde de la Philosophie, une excellente collection qui vient de se créer. Demain, je recevrai Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, à propos du numéro que la revue consacre à la transition démocratique. À la technique aujourd'hui, c'était Claude Niort. À la réalisation, François Connard. Assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve Avoinu sur France Culture.